CFM, le mag, tous les jours, 12h, 12h30, la vie du Grand Rodez.
Bonjour à tous, c'est le mag Grand Rodez en CFM. Au programme aujourd'hui, le mouvement de colère des intermittents du spectacle en Aveyron, mais pas seulement. Nous sommes avec des membres du collectif des intermittents de l'Aveyron qui sont avec nous aujourd'hui dans cette émission pour nous expliquer un petit peu pourquoi ils contestent les accords qui semblent engagés au niveau de qui d'ailleurs, que c'est, j'allais dire du gouvernement, mais c'est plutôt des instances,
ça vient des partenaires sociaux et c'est voilà. Ça doit être agréé par le gouvernement.
Voilà,
je me trompe pas.
Pas du tout.
Et celui que vous entendez avec nous à l'instant, c'est Wally, artiste aveyronnais bien connu en Aveyron et pas seulement. À ses côtés avec nous dans cette émission aussi pour parler de ce sujet important, Max. Bonjour Max.
Bonjour.
Max qui est aussi intermittent du spectacle.
Depuis 1982, donc.
Ça ne nous rajeunit pas.
Et surtout moi.
Et vous, c'est quoi votre spécialité? Parce que intermittent du spectacle, ça recouvre tout un tas de métiers. On va d'ailleurs en parler.
Jusqu'à une date pas trop ancienne, j'étais musicien.
D'accord.
Et puis, y a 2003 qui est passé, puis différentes choses. Et puis maintenant, je suis technicien son.
Très bien. Et puis une femme est aussi avec nous dans ce studio, membre du collectif des intermittents, mais pas intermittente elle-même.
C'est ça.
Hein, Marie-Lise. Bonjour Marie-Lise.
Bonjour.
Toi, tu travailles dans quoi? Quand tu travailles? Est-ce que tu travailles déjà?
Je travaille, je suis organisatrice de concerts, je travaille dans le secteur culturel et permanente.
Permanente, t'as un contrat de droit commun comme on dit?
C'est ça.
Bon, on va parler ensemble de ce mouvement des intermittents du spectacle. Alors ça fait plusieurs mois qu'on en entend parler, qu'on voit parfois à la télévision des membres des intermittents du spectacle venir protester contre des décisions, des arrangements prises par les partenaires sociaux. Déjà, je vous demandais de nous planter un petit peu le décor, parce que le grand public comme moi, par exemple, je vous avoue, on voit les artistes en colère sur les scènes, mais on comprend pas toujours pourquoi.
Un intermittent du spectacle, d'abord, ça regroupe à peu près 900 métiers.
900 métiers?
Oui, ça va de tous les métiers créatifs, c'est-à-dire, ça peut partir de l'écriture jusqu'à tout ce qui est sur scène, acteur, comédien, musicien, mais aussi tout ce qui est technique. C'est-à-dire des techniciens son, lumière et tout ce qui peut attrait à la régie des spectacles. Beaucoup de métiers, direction artistique, beaucoup de fonctions peuvent être sous le statut d'intermittent, et ainsi que des fonctions administratives.
Alors justement, le statut d'intermittent, Wally, qu'est-ce que c'est en fait?
C'est un régime spécifique en tout cas. Déjà, c'est un régime spécifique qui est au sein donc de l'Inédic. Ça correspond à deux annexes qui nous concernent, les annexes 8 et 10, ces fameuses annexes. Et donc c'est très simple en fait pour accéder à ces allocations des annexes 8 et 10. Il faut réaliser 507 heures sur 10 mois et demi pour les artistes et 507 heures sur 10 mois. Pour les techniciens, voilà.
D'accord.
Donc c'est-à-dire
sur une année.
Sur une année.
Dix mois et demi, vous avez dit.
Dix mois et demi pour les artistes et 10 mois pour les techniciens.
D'accord.
Donc voilà, ça c'est des conditions qui ont été revues depuis 2003 d'ailleurs. Donc
à la baisse.
À la baisse, dans le sens où avant il y avait ce qu'on appelle la fameuse date anniversaire, qui est aussi un des enjeux là. Nous on demande depuis des années que cette date anniversaire revienne, c'est-à-dire à taux fixe, parce qu'effectivement là on est carrément dans le droit, dans l'histoire des droits rechargeables, c'est-à-dire que on a quand on ouvre ses droits, on les ouvre pour 243 jours. C'est-à-dire qu'on a des droits qui sont ouverts pour 243 jours, des allocations qui sont voilà. Et quand on a épuisé ces 243 jours, on revient en arrière et regarde du travail qu'on a effectué sur les 10 mois et demi précédents, et on regarde combien d'heures ont été réalisées. Ça veut dire que même dans ce statut-là, il y a des heures qu'on fait qui ne comptent pas dans le calcul de nos allocations. Ça, il faut le savoir.
Oui, Max.
Alors, quand on dit 507 heures, ce sont les 507 heures qui sont susceptibles d'être déclarées au cours des manifestations. Mais il y a un artiste qui s'appelle Aldebert qui a fait une très très belle vidéo qu'on peut voir sur YouTube et qui il a fait le compte lui. Il a pris le temps pour faire le compte des heures qu'il réalisait, des heures de travail. Et en fait, pour arriver à avoir 507 heures déclarées, en fait, c'est plus de 2000 heures sur différents métiers qui sont nécessaires d'exercer, même pour un artiste, c'est-à-dire de la promotion, de l'administratif, plein de choses. en fait, les 500, ces fameuses 507 heures dont on parle, ben, c'est qu'une toute petite partie de l'horaire de travail de tout intermittent.
Si on peut comparer, juste peut-être une comparaison, c'est comme si on disait à un prof, voilà, vous faites 15 heures par semaine, et en fait, vous faites que 15 heures par semaine. C'est souvent le problème. Hein. C'est-à-dire, voilà, la problématique aujourd'hui, c'est qu'on on voit pas plus loin, l'homme en général ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Donc évidemment, il y a un prof, il fait 15 heures. Donc, c'est-à-dire que moi, par exemple, j'étais prof il y a quelques années, il y a tout longtemps. Si on se pointe sans rien avoir préparé, c'est une catastrophe. Hein, je veux dire, donc à un moment donné, il y a quand même beaucoup de boulot de préparation qui fait qu'à un moment donné, on va être plus ou moins bon quand on arrive à faire ces métiers. Alors, il y a plein d'exemples comme ça. C'est-à-dire, effectivement, Max a raison de dire que les 507 heures, c'est ce qui permet d'ouvrir. Mais après, tout ce qui est avant, tout ce qui est après, ben, il y a la préparation, il y a aussi la route. Hein. Moi, je dis souvent, pour plaisanter, que je suis routier avant d'être artiste. Quoi. Moi, je fais 50, 60 000 bornes par an, c'est très concret. Donc déjà, ça veut dire que quand on joue loin, quand on, évidemment, on joue pas dans le coin, et fait, si c'est mon cas, eh bien, on part la veille et on revient le lendemain. Ça veut dire que des fois, pour un cachet hein, de 150 à 200 euros net, eh bien, on va être 3 jours dehors. Voilà.
Un cachet comptait 12 heures.
Hein. 12 heures.
D'accord.
Voilà. C'est le principe de, voilà. Un cachet comptait 12 heures et un cachet de technicien comptait 8 heures plus 2 heures d'heures supplémentaires quand c'est possible.
Ce statut d'intermittent, il date de quand?
De 1936, je crois. Les premiers, je crois que ça a été ça, d'après ce que je lisais dans Le Monde. Voilà. Bon, on n'est pas historien de l'intermittence, ouais, mais 1936, ouais. Mais ça c'est vraiment,
En fait, en 1936, ça a été ouvert pour aux industries du cinéma. Uh-huh. Et ça s'est vraiment développé après 68, où ça s'est ouvert à tout le spectacle vivant. Et en 92, je crois, mais bon, ma mémoire n'est pas infaillible, ça s'est ouvert à tous les métiers de l'audiovisuel.
Alors, ce statut d'intermittent, pour expliquer aux personnes qui nous écoutent, qui ne connaissent pas vraiment les détails un peu techniques de ces choses-là, donc on n'est pas dans le régime du droit commun des autres salariés, et j'imagine que ce soit en 1936, en 1968, ou à n'importe quelle date, on n'a pas fait ça pour vous faire plaisir, c'était pas cadeau, ça correspondait à une situation. Le statut d'intermittent, ça correspond à quelque chose.
Oui, ça correspond à une spécificité des métiers du spectacle et de l'audiovisuel, des métiers culturels en fait. On pourrait dire que le résultat de ça, c'est que ça a été un terrain d'essai de la flexibilité du travail qui a été engagé à l'époque, avant le MEDEF, on avait... Je sais pas.
Ah, c'était pas le CNPF?
Voilà.
Avec le père de celui qui l'a sur moi.
Voilà. Avec le CNPF, tout ça, là, toute leur théorie sur la flexibilité du travail, ça a été appliqué de facto au secteur culturel.
Il y a une espèce comme ça de, voilà, comme dit Max, de terrain d'essai, mais il y a aussi une réalité des boulots. C'est-à-dire que ces boulots ont été créés, enfin, ce statut a été créé parce qu'à un moment donné, même aujourd'hui, c'est une catastrophe quand on veut jouer dans des structures municipales ou, voilà, c'est compliqué pour des gens qui ont un emploi, entre guillemets, normal, qui sont employés à la commune, par exemple. Mmh. Les heures supplémentaires à payer, le travail de nuit, charger un camion à 2 heures du matin, enfin, etc., etc. Donc, à un moment donné, cette correspond à une spécificité vraiment de travail et d'effectivité de travail sur le terrain. Alors, en plus, des compétences, on va dire, des compétences. Il faut faire la différence entre un électricien, par exemple, et un éclairagiste, quoi. C'est pas du tout pareil. On le voit des fois dans des salles où on crée des spectacles, moi je le vois en tournée, ils mettent l'éclairagiste qui a été à la commune depuis 10 ans, mais c'est pas son métier. Quand il s'agit de monter un projo, c'est un truc très concret. Il sait pas ce que c'est un projo. Il sait pas la différence entre un PC, une découpe, etc., etc. Donc il y a vraiment des spécificités. C'est pas parce qu'on va installer la sono dans le village avec les bouillets de l'époque que le mec va pouvoir faire une régie de façade, sonoriser un groupe, par exemple. C'est pas du tout les mêmes spécificités, sachant que ces emplois aujourd'hui ont des spécificités assez ardues, quoi. C'est-à-dire aujourd'hui, le numérique est arrivé, mais même avant, comment on fait marcher une console? Toi, t'en fais marcher une là, pour quand même pouvoir savoir où c'est qu'on monte le bouton, on envoie, là, etc., etc. Donc vraiment, on est aussi dans une vraie spécificité de métier, avec une technicité qui est aujourd'hui, alors là, moi personnellement, qui est énorme, quoi. Sans compter, évidemment, dans ces métiers en technique, en l'occurrence, tout ce qui est technique, tous les certificats qu'il faut avoir, quand on va monter, quand on va aller à hauteur, quand on va aller, quand on va transporter du matériel, quand on arrive sur un lieu, la sécurité, tous les branchements et tout, c'est un truc qui est incroyable. N'importe qui ne peut pas le faire. Voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on est électricien qu'on va faire éclairagiste. Voilà, c'est peut-être un raccourci, mais ouais, je pense que c'est clair pour les auditeurs.
Hein. Alors, on va venir justement sur le conflit qui vous oppose en ce moment au gouvernement d'une part, mais aussi peut-être aux partenaires sociaux, parce que si j'ai bien compris, ils ont pris une décision qui vous implique sans discuter avec vous. C'est quoi le problème actuellement et qui fait qu'on voit les intermittents en colère?
Alors, si je peux me permettre, pour terminer sur la présentation des intermittents, en fait, ce statut d'intermittent, il faut dire qu'il a été longtemps spécifique à la France.
Oui.
Et il y a une conséquence de ce statut qui a été induite, qui a permis à ceux qui en bénéficiaient, mais j'aime pas le mot parce que depuis 2003, ça a été tellement précarisé, mais ceux qui ont accès à ce statut, ça a permis une grande liberté, une liberté de création, une liberté de choix d'employeur. Étant donné qu'on est des sportifs de la recherche d'emploi, quand on est compétent et que qu'on travaille dans ce milieu, ça permet de choisir ses employeurs. Je vais faire quelque chose d'un peu un raccourci un peu trivial. Si on mange moins bien à un endroit, on choisira l'endroit où on mange mieux.
C'est-à-dire qu'effectivement, il y a de ça. Moi, je dis personnellement que je suis un enfant de l'école publique, moi. L'école m'a... Voilà. Et je suis un enfant de l'intermittence. Je suis un peu juste après Max dans l'intermittence. Ça fait 27 ans que je suis intermittent, ou 26 ans. Enfin, je suis intermittent. J'accède à ce statut avec des années de survie et d'autres un peu meilleures, voilà. Mais moi, s'il n'y avait pas eu l'intermittence, j'aurais pas pu, presque 50 balais, être là où j'en suis aujourd'hui. C'est-à-dire que j'aurais pas pu améliorer mon outil de travail, m'améliorer, travailler, avoir du temps. La création, c'est aussi... alors, je vais en faire bondir certains, mais c'est l'avantage, c'est aussi pouvoir prendre du temps. C'est pouvoir essayer, c'est pouvoir se tromper. Ce qu'on ne demande pas aujourd'hui. Alors là, on est dans une atteinte aussi d'une certaine vision du travail. Le travail, il ne faut pas oublier que ça vient de Tripalium, c'est un instrument de torture. Donc effectivement, aujourd'hui, je crois qu'il y a des gens qui sont un peu jaloux du fait qu'il y ait des gens qui font un travail qui leur plaît, et souvent pour pas grand-chose. Et on continue. Mais il y a des moments où il faut dire stop, ce qui est le cas en ce moment. Mais je crois qu'il y a de ça. Moi, je suis un enfant de l'intermittence.
Alors, cet accord que vous contestez, sur quoi il repose exactement? Qu'est-ce que vous lui reprochez?
En fait, le protocole d'accord UNEDIC qui a été signé le 22 mars et qui nous est opposé.
Et pas proposé?
Ah non, il est complètement opposé, puisque il est opposé y compris aux partenaires sociaux, parce que c'est un accord qui a été signé dans les couloirs du MEDEF.
Et quand vous dites dans les couloirs, c'est une image ou...
Non, c'est très précisément dans les couloirs. La table de négociation de l'accord UNEDIC du 22 mars. Déjà que la réunion pour l'accord de UNEDIC, ça se passe dans les locaux du MEDEF, ça oriente les choses. Le MEDEF, faut rappeler que le MEDEF est un des syndicats représentatifs du patronat, mais ce n'est pas le principal. Il y a la CGPME, l'UPA, et même au sein de la CGT, on a des syndicats comme le SEMTAC, qui sont des syndicats d'employeurs. Donc voilà, au sein du patronat, il y a plusieurs syndicats, mais le MEDEF dicte sa ligne. On négocie les accords UNEDIC dans ces locaux, et à la table de négociation, déjà le MEDEF arrive en disant on va s'asseoir chez nous, puisque c'est chez eux, uniquement si on fout à la trappe les annexes 8 et 10.
Foutre à la trappe, c'est-à-dire
les supprimer. C'est-à-dire que le MEDEF voulait supprimer quand même, il faut juste le savoir. Quand même, Gattaz a eu cette espèce de trait de génie de dire on va supprimer les annexes 8 et 10 carrément, ça, avec une espèce de demi-mesure qui lui est propre. Donc effectivement, quand on voit d'où ça part, et on sait très bien que depuis des années, évidemment, le MEDEF allié à d'autres syndicats qui ne sont pas représentatifs, pour un peu aller dans le sens de ce que dit Max, la CFDT dans le milieu du spectacle n'est pas représentative. D'ailleurs, c'est quand même rigolo de voir que dans le monde de samedi, la numéro 2 de la CFDT, Véronique d'Escac, elle s'appelle, a annoncé une rupture de l'équité entre les salariés, je la cite. L'accord du 22 mars, dit-elle, prévoit des efforts pour tous. Or, là, il y a une catégorie à laquelle on dit les efforts, ce n'est pas pour vous. C'est un syndicat quand même salarié, là, c'est la numéro 2 qui dit ça. Donc après, on peut évidemment parler de la division, on va pouvoir aller dans tout ça. Pour moi, c'est très choquant, ça. Donc effectivement, cet accord est signé entre deux portes, là, par des gens qui ne sont pas du tout au courant de ce qui se passe dans ces métiers, sachant qui a eu un comité de suivi, qui s'est quand même réuni pendant 10 ans auparavant, pour réfléchir à ce qu'allait... Parce que tout le monde la veut, cette réforme de ce statut, de ce régime. Tout le monde y a mis de la CGT à tout le monde, tous les mêmes des collectifs, beaucoup de collectifs aussi. Parce que les syndicats dedans sont représentatifs, mais les collectifs qui sont créés en font la preuve que des fois, on se retrouve pas non plus dans des syndicats, et même des syndicats qui œuvrent. Hein, moi, c'est mon cas, l'occurrence, personnellement. Donc les collectifs, ils rassemblent des gens de tous bords qui viennent réfléchir à tout ça. Et là, pendant 10 ans, il y a des gens qui réfléchissent, il y a eu des commissions parlementaires, il y a eu de tout. Et puis d'un coup, en 10 heures, ou même pas en 2 heures, de temps, on s'essuie les pieds sur ce comité de suivi de 10 ans. Alors après, quand on entend Gattaz dire à quoi ça sert qu'on travaille si le gouvernement ne signe pas, bon, on rit doucement, on fait on rit jaune, quoi, évidemment. Donc effectivement, là, on est aujourd'hui dans cette position d'un fait accompli. C'est pour ça qu'on ne nous propose même pas. On nous dit c'est ça ou pas autre chose.
Et alors justement, cet accord, c'est quoi les conséquences pour les intermittents du spectacle? Qu'est-ce qu'il prévoit comme changement, comme évolution?
En gros, si on ne veut pas rentrer dans les détails, en 2003, ils nous ont fait la même. 70% des intermittents sont sortis du régime et ont disparu.
En 2003, 70% des intermittents sont sortis du régime.
Ouais, oui. À peu près. Ouais, c'est des chiffres qui se... Voilà.
C'est les chiffres qui sont dans la presse.
C'est un convainc. Aujourd'hui, en plus, il y a pas mal de gens qui sont passés auto-entrepreneurs, ce qui est la pire des choses à faire, voilà. En fait. Voilà, pensant qu'on va pouvoir s'en sortir comme ça. Bon, bref, après, moi, je porte pas de jugement sur les gens qui l'ont fait, mais bon, c'est juste une question de savoir si on en arrive à ça, si c'est ce que veut exactement le MEDEF et la CFDT. Mais là, ce qui se passe, c'est exactement, c'est le même protocole en pire.
Alors, c'est la même, je dirais, stratégie de la part du gouvernement et du MEDEF ou CNPF, peu importe. On dit on annonce un gros choc et puis on dit là on supprime. Ah, puis on va vous mettre un médiateur et puis calmez-vous. Voilà. En 2003, il y a eu un médiateur, il y a eu de tout ça, il y a eu des mesures qui ont été prises pour que les intermittents arrêtent de faire grève dans les festivals, arrêtent de bloquer les festivals. Et mais le résultat, c'est que 70% sont sortis. Et le revenu, en gros, ça a pris 3 ans, à peu près. 3-4 ans. Mais le revenu pour le même boulot, le revenu de ceux qui bossaient sous le statut intermittent, il a été divisé par 2, en gros. On nous propose la même, là, en bleu, avec un médiateur, avec des ajustements sur les annexes 8 et 10.
Là, l'accord, c'est quoi? C'est que, bon, maintenant, c'est plus 507 heures, c'est 600.
Les points assez effectifs rapidement comme ça, c'est que, bon, c'est parti du délai de carence, le fameux différé, en fait, d'indemnisation. Voilà, ça a été un peu ça, le premier truc qui a fait qu'à un moment donné, c'est-à-dire que vous, en gros, je schématise, mais en fait, vous travaillez, un salarié normal travaille 12 heures, on lui dit, vous avez droit à 12 mois d'heures d'allocation, et en fait, on va vous en payer que 11, alors que vous avez rempli toutes les conditions pour pouvoir accéder la hausse des cotisations, donc voilà. Donc, effectivement, on est déjà dans un secteur très précaire, comme vient de le démontrer Max, et on vous dit, effectivement, il y a des gens qui vont pas toucher leur indemnité avant un mois, jusqu'à un mois, ça peut aller, jusqu'à 4 mois.
Si on travaille beaucoup.
Clairement, concrètement, ça se traduirait par une perte de revenus.
Bien sûr.
Pour
c'est un fait. Oui. C'est un fait. Plus cotisation de 2% des cotisations, augmentation de 2%
des cotisations
salariales.
D'accord.
Sachant qu'on est dans un secteur salarié, nous, quand même, où les cotisations sont déjà, assez élevé, sont majorés, évidemment,
par rapport au régime général.
Tout à fait,
d'accord.
Voilà. Donc, évidemment, il y a des petites compagnies qui déjà ont du mal à s'en sortir et quand on commence à augmenter les cotisations comme ça, ça devient compliqué, hein. On va pas commencer à gueuler comme le font certains en disant les charges. C'est un mot que je ne supporte plus, on dit les cotisations sociales. Et effectivement, là, après, on est sur aussi, on voit bien cette porte ouverte à l'arrivée de, pour moi, qui est le pire, en tout cas, dans ce qui va se passer, hein. C'est l'arrivée de l'État dans le financement du spectacle vivant, avec la création d'une caisse autonome, comme l'a dit Samuel Churin, le MEDEF en rêvé, Valls l'a fait, quoi, la CFDT depuis des années, voilà, c'est une caisse, c'est ce qui va peut-être se passer, hein. En tout cas, c'est ce qu'ils aimeraient bien faire, en tout cas, c'est-à-dire qu'en ce moment, on voit bien que l'État veut rentrer partout, hein. Il rentre en nationalisation, enfin, ils appellent plus ça comme ça, mais d'Alstom, il rentre, etc. Il y a plein de trucs, en ce moment, ils vont rentrer dans la nationalisation aussi de trucs, mais pas à notre compte, parce qu'à un moment donné, si un jour un autre gouvernement arrive, et peut-être ils seront plus d'accord avec ça, ils diront, effectivement, c'est pas inscrit. On sort de d'une mutualisation des moyens, hein. C'est-à-dire, moi, je pose vraiment la question aujourd'hui de savoir si on veut que la culture reste au rang de la santé, de l'éducation, du social en France. C'est tout. C'est ce qu'il faut demander aux gens. Est-ce qu'on veut mutualiser ces choses-là ou est-ce qu'on veut une culture perso avec des gens qui pourront aller voir il y aura moins de propositions dites alternatives. Ça, quand je dis alternatives, ça veut dire même la MJC de Rodez, même des structures qui ont l'air comme ça. Voilà, je pense à ça parce qu'il y a une programmation qui est un peu différente de ce qu'on voit à l'amphithéâtre, un petit peu. Et donc, est-ce qu'on devrait avoir qu'une culture rentable par la suite, avec quand même des gros spectacles à l'amphi où les gens payent au bas mot entre 40 et 50 euros pour voir une place, qui payent deux fois puisqu'ils payent le déficit, souvent évidemment c'est pas rentable, etc., etc. Donc ça pose un cadre de vie, hein. Quelle culture nous en tant que citoyens on veut, et le politique qu'est-ce qu'il veut, et le politique se positionne.
Et alors quand vous devez entendre ça, quand vous êtes dans les rues en train d'expliquer vos motifs de mécontentement, et quand on vous dit ouais mais c'est la crise, faut que tout le monde fasse des efforts, le pays est endetté, regardez ceci cela, eux aussi, nous on a vu nos impôts augmenter, pourquoi pas vous?
Ben, passons déjà.
Déjà fait.
Parlons déjà de 2003 à 2007 où déjà il y a eu une réduction, une hécatombe, réduction drastique de tous les budgets à la culture. Au fil des temps, dans les années 90, tout le budget patrimoine s'est intégré au niveau des budgets d'État. Tout le patrimoine s'est intégré au budget de la culture sans augmentation du budget de la culture. Voilà. Donc les collectivités locales, conseils généraux et tout ça ont embrayé dans la chose.
Voilà. Extrait du Monde, là, pareil. Voilà, moi, Aurélie Filippetti, dont le premier budget, faut le savoir, de la culture en 2013 a été rogné comme il ne l'a jamais été en 30 ans. Vient d'apprendre qu'elle perdra 69 millions d'euros lors d'un collectif budgétaire. C'est-à-dire que c'est la première fois en 30 ans que sous un gouvernement socialiste qu'on perd 69 millions. Et je trouve que la crise a bon dos, hein. Elle a bon dos pour plein de raisons, parce qu'effectivement, nous, on est déjà victimes de ça. Alors, il n'y a pas de barouf, hein, on bloque pas les routes, on fait pas ci, on fait pas là, on pète pas des machins en Bretagne et tout ça. Elle a bon dos là-dessus. C'est-à-dire que nous, encore, je trouve qu'il y a quelque chose qui est honnête. On est un peu des espèces de... on a notre sincérité et notre honnêteté qui fait qu'à un moment donné, on essaie de se battre comme on peut. Et effectivement, c'est compliqué. C'est compliqué, donc la crise elle a vraiment bon dos, et puis c'est juste le fait à un moment donné de dire aux gens, et on va essayer de continuer à le faire, d'arrêter de regarder leur nombril. Je comprends, évidemment, tout le monde a des difficultés dans ce pays aujourd'hui, mais nous on est pris entre deux feux. Il y a vraiment des décisions gouvernementales qui font que, là, parce que maintenant c'est gouvernemental et c'est comme ça, qui font qu'effectivement ça nous précarise déjà depuis très longtemps. Puis il y a aussi les baisses de la culture à côté, et c'est-à-dire qu'un pris entre deux feux aujourd'hui pour travailler, ça va être très compliqué. Il y a des municipalités, des comités des communes, des communautés territoriales qui vont vite calculer, quoi, entre faire un bout de route, mettre deux policiers municipaux en plus et faire une programmation culturelle, je pense qu'ils vont vite choisir, quoi.
C'est combien de personnes à peu près, si vous avez les chiffres, en Aveyron, les intermittents, ça représente quoi?
Alors disons qu'en Aveyron, on le sait pas vraiment, mais c'est aux alentours de 120 qu'on estime. Mm-hmm. Ben on se connaît un peu les uns les autres.
Ouais.
Voilà. Au niveau 120 intermittents indemnisés, parce qu'il y a beaucoup d'intermittents qui n'arrivent pas à renouveler leurs droits. Mais au niveau national, c'est annoncé entre 110 et 120 000 intermittents.
Mm-hmm. Indemnisés.
Indemnisés. Mm-hmm. Voilà.
250 000 environ salariés ont cotisé au régime des intermittents en 2011. C'est des sources du.
D'accord, 2011. 250 000 qui ont cotisé et pour 108 000 indemnisés.
108 000 qui ont été indemnisés. Voilà. Et 46 sur les 108 000. Donc il y a eu, on est sur 53% d'artistes et 47% de techniciens. Donc les techniciens, c'est l'annexe 8.
Alors on va continuer dans ce magasin d'essence CFM à parler de ce mouvement social, je sais pas comment vous l'appelez, hein, mouvement en tous les cas des intermittents,
oui.
Autour de ces décisions de l'UNEDIC et du gouvernement qui s'est un petit peu emparé du dossier ces dernières semaines, voir ce que vous comptez faire, parce que jusqu'où vous êtes prêt à aller, quelle éventuellement sortie vous envisagez, côté positif, côté négatif, optimiste ou pessimiste. On va faire une petite pause musicale tout de suite dans ce magasin Rodez en CFM. Avec Noir Désir, c'est Max qui a voulu. Hein, Max?
Très bien, super.
Ah, le titre, En route pour la joie. C'est le hasard, mais le hasard fait parfois bien les choses.
On y va.
On se retrouve tout de suite après dans ce magasin Rodez en CFM.
Youpi. Hosanna, Hosanna.
de la gelée encore, du givre au bord des lèvres. Oh, mais où sont les mots secrets? Hey! C'est des bornes d'hôpital, c'est des couloirs en vrac, du néon malicieux et de la douche en lac. Hey!
En CFM, nous sommes aujourd'hui avec le collectif des intermittents de l'Aveyron, des intermittents de l'Aveyron, qui sont pas mal dans les rues. Vous l'avez peut-être vu croiser à l'occasion de la fête de la musique le week-end dernier. Ils ne sont pas satisfaits du tout de la modification du statut qui est proposé par les partenaires sociaux, hein, certains syndicats patronaux et salariés. Et vous les avez peut-être vus dans différentes manifestations. Expliquer leurs problèmes et ce pourquoi ils se battent. Alors justement, où on en est là aujourd'hui de la situation. On parle de festival au niveau national déjà d'une part.
Le protocole est toujours pas signé, donc nous, je crois qu'on va aller jusqu'au bout de la lutte. Enfin, si on peut laisser une lutte, moi j'ai un peu de mal avec ce mot, mais c'est un peu ça, quoi. On va y, de la mobilisation en tout cas. Même les copains qui des fois pensent que tout est mort, c'est pas mort. Donc c'est... et donc voilà, effectivement, on est mobilisé jusqu'en tout cas. C'est pas signé encore, voilà, tout simplement, ce qu'on se dit.
Et ça doit être signé quand? Enfin, il y a une date ou?
Le 26, je crois.
Donc cette semaine.
Jeudi.
D'accord. Et signé entre qui c'est le gouvernement.
C'est le gouvernement qui agrée.
D'accord. Voilà. Et moi j'ai entendu dire que le gouvernement comptait agréer.
Oui, ils sont partis pour puisqu'ils ont fait l'effort de rallonger sur le fameux mois différé. Valls a promis cette caisse transitoire qui va combler le manque à gagner des éventuels bénéficiaires jusqu'à la fin de l'année. Faut juste dire ça qu'après ça s'arrêtera et que voilà.
C'est,
donc
c'est pour passer l'été.
Voilà. Ils essayent de préserver. Ce qui intéresse les gens, c'est savoir si les festivals vont être annulés, quoi. Enfin,
voilà. En fait, Valls, on peut se demander s'il a véritablement décidé, en proposant cette mesure, de différer le Festival d'Avignon au mois d'octobre.
Marie-Lise qui est avec nous dans le studio. Alors Wally et Max, vous êtes tous les deux intermittents du spectacle. Marie-Lise, toi t'es pas intermittente du spectacle, mais tu soutiens ce mouvement, cette mobilisation. Bon, tu travailles quand même dans le milieu culturel. Pourquoi t'as envie de t'associer à ce mouvement? Alors que toi t'es pas concerné pour le coup. T'es pas intéressé
si.
À l'affaire.
Et ben, bien
a priori.
Sûr que si, en travaillant dans le secteur culturel. Les intermittents sont moins nombreux pour toutes les raisons qu'on a données, si on les met au régime général, ce qui veut dire qu'il faut plus les rémunérer, nous, personnellement, parce qu'ils auront moins d'indemnisation à côté, c'est tous les organisateurs de la culture qui sont touchés. À savoir que, comme l'a dit Wally tout à l'heure, les subventions à la culture en général et tout le budget à la culture diminuent. Donc si on se retrouve avec des budgets de festivals ou de salles diminués et une charge... moi, je suis de l'organisatrice. Une charge supplémentaire ou un budget artistique, donc de artistique de rémunération des artistes et techniciens qui s'augmente, on va se retrouver dans une impasse. Et à mon avis, c'est la moitié des salles qui vont fermer, la moitié des festivals les plus petits qui vont disparaître. Donc pour moi, c'est quelque chose de très important. Après, d'un point de vue public, parce que je suis aussi public de la culture. Si on baisse l'offre, c'est moins de liberté, c'est moins de façon de penser. On parle de la MJC de Rodez ou de petits lieux, ça permet de voir des spectacles qu'on ne voit pas ailleurs, ça permet de réfléchir à des choses qu'on ne voit pas quand on regarde uniquement la télévision ou quand on lit uniquement les journaux. Et c'est important de garder toute cette culture parce que c'est, on parle aussi de l'exception française, c'est aussi la culture qu'on a qui est importante, le cinéma qui se développe à l'étranger, la musique qui se développe aussi à l'étranger. Si on enlève toute cette offre, on va se retrouver avec une culture, même fermée. Si on parle de culture française, une culture fermée.
Alors, ce mouvement de mobilisation des intermittents du spectacle, ici en Aveyron, je vous trouve, je vais pas dire gentil, mais plutôt calme. Il y a d'autres régions en France où il y a eu des mairies envahies, des choses un petit peu plus violentes. Et tout à l'heure, Wally évoquait en Bretagne, alors c'est un tout autre sujet, mais on a vu des mobilisations violentes, c'est beaucoup dire, mais disons spectaculaires, plus spectaculaires que ce que vous pouvez faire ici en Aveyron. Pourquoi ?
Mais vous vous rendez compte de ce que vous nous annoncez là ? Pour exister, il faudrait aller casser du CRS, casser des mairies, casser des biens publics. Non, on est dans la vie, locale. Qu'est-ce qui va se passer si le statut d'intermittent disparaît ? Ben, il va rester un petit peu de travail, oui, dans l'industrie de la culture, un petit peu. L'industrie de la culture, c'est pas à Rodez, c'est pas en Aveyron. L'industrie de la culture, à minima, c'est à Toulouse. À maxima, c'est Paris, voilà. Ben, on ira, si on peut pas travailler en Aveyron, soit on va à la pêche, on plante des patates, soit, on va vers les capitales et on va travailler pour l'industrie du divertissement et de l'événementiel.
Et là, sur les prochaines semaines, alors par exemple à Avignon, on se demande si le festival aura bien lieu. Ici, en Aveyron, il y a les Stivans notamment, avec des intermittents du spectacle. Vous pensez à vous mettre en grève et donc empêcher ce festival ? On peut aller à des actions comme ça si l'agrément est signé par le gouvernement dans les prochains jours ou pas ?
Mais bien sûr qu'on y pense. Bien sûr qu'on y pense. On a nos collègues intermittents qui ont bloqué depuis le 2 juin. Ils sont en grève sur le printemps des comédiens à Montpellier. Ouais. En France, actuellement, il y a une centaine de festivals ou de lieux de spectacle qui sont en grève. En Aveyron, on a mercredi une structure comme la Maison du Peuple, qui est un théâtre municipal, qui a annoncé une grève mercredi avec 100% du personnel, y compris le directeur, qui seront en grève. Voilà, la grève, c'est un des moyens qui reste pour s'exprimer et faire pression.
Et vous avez espoir que on arrive à des résultats qui soient positifs pour vous? Ou pas ?
Ben, c'est tenu à la signature de l'accord. Si l'accord est signé, il ne faut pas croire que nous refaire le coup de 2003, ça va passer. Non. En 2003, on a nommé un médiateur, le gouvernement a nommé un médiateur et qui nous a dit arrêtez de faire grève, vous allez voir, tout va aller très bien. Non, on a été échaudé une fois et puis bon, ça a échaudé.
Autre sujet, des mouvements sociaux, il y en a pas mal ces derniers temps. On a eu les cheminots, les intermittents actuellement, un peu plus avant, oui, on parle en Bretagne, les bonnets rouges. Comment votre mouvement est perçu par la population ?
Je crois que, je sais pas s'il est bien perçu, quoi. C'est une des clés aussi. C'est-à-dire, il est perçu par des gens concernés qui connaissent un peu le problème. Il est plutôt bien perçu. Ils comprennent tout à fait nos revendications. Ils comprennent tout à fait le côté complètement schizophrénique de ce texte, quoi. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a pu voir samedi à la fête de la musique, où quelqu'un prend la parole oralement en disant « on vous soutient », puis est incapable de signer, en fait. Bon, en même temps, bon, c'est comme ça. Et on voit bien que le grand public, lui, bon, il dit souvent « on comprend pas », mais il faut juste... moi, j'ai juste envie de dire aux gens « arrêtez de regarder votre nombril un petit peu », quoi. C'est-à-dire que si vous regardez un peu autour de vous... et, alors, les gens ont leur raison d'être en colère, de nous prendre pour des privilégiés. Ils ont leur raison, on les respecte. Mais effectivement, je crois qu'il y a un problème d'autocentrage. Et là-dedans, la désinformation, il fait beaucoup. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on regarde la télé, on se dit « mais c'est pas possible, on parle pas de la même chose ». En tout cas, quand on connaît un sujet et que ça passe aux infos de 20h, on se dit « c'est pas possible, les gens comprennent pas ». Et ils peuvent pas comprendre. Il y a quelque chose qui est orienté, qui est à dessein, qui est fait tout à fait exprès pour orienter les gens dans quelque chose. Donc moi, j'ai envie de dire aux gens, pensez un peu à la société que vous voulez, en fait. Bon, c'est très compliqué, effectivement. Je parle, mais on ne l'a pas dit, mais on ouvre à tout le monde. C'est-à-dire que l'intermittent, c'est un point au milieu de toute la convention UNEDIC. C'est-à-dire que tous les précaires vont se retrouver dans la même situation que nous. C'est-à-dire, on va exclure des gens en permanence. C'est une machine à exclure, comme disait Max tout à l'heure. Et donc, aujourd'hui, l'intermittent, c'est un des points parmi les autres. C'est quel modèle de société on veut. Est-ce qu'on veut rester dans une société mutualiste, mutualisée, hein, les plus riches, en gros, hein, je paye pour les plus faibles. Hein, moi, je paye des impôts, je suis très content de payer des impôts. Voilà, je suis pas en train de chercher à magouiller pour pas en payer. Voilà, enfin, je saute pas de joie quand je reçois, mais je suis content de payer mes impôts. Je veux dire, ça me semble normal. Alors après, effectivement, dans tout ça, il y a quelque chose d'un regard citoyen à avoir par rapport à comment sont utilisés cet argent, etc. Moi, aujourd'hui, je suis, c'est personnel, même pas au nom du, c'est moi, je me dis, arrêtez de se regarder, et moi aussi d'ailleurs, le nombril. Quoi, essayons de regarder un petit peu à côté. L'autre est quand même très important. Voilà.
Marie-Lise ?
Et puis aussi, au niveau de la perception du public, ce qui est assez fou, c'est que les gens voient seulement le côté intermittent qui va toucher plus, qui va continuer à toucher ses indemnités, sauf qu'ils ne voient pas le côté nombre de spectacles qui va diminuer forcément, nombre de salles qui va fermer. Et la deuxième chose, c'est comme on parlait, c'est tous les précaires qui sont touchés par cet accord. Et on voit surtout les intermittents parce que c'est ceux qui ont le plus de moyens de se faire entendre, puisque ils peuvent se permettre de faire grève et de bloquer un festival, ils peuvent se permettre d'aller sur un plateau télé puisqu'ils travaillent en dehors du plateau télé. Un intérimaire, s'il fait grève, il sera jamais réembauché. Donc lui, il n'a aucun moyen de se faire entendre. Et on a tendance à dire que cet accord UNEDIC, c'est uniquement les intermittents parce que c'est ceux qu'on entend le plus et il faut pas oublier. Et c'est aussi pour ça que je suis dans ce mouvement, que c'est pas seulement un mouvement d'intermittents, c'est un mouvement de pour toute la population, savoir ce qu'on a envie de faire de nos allocations chômage, pour tous.
Vous avez, Wally l'a un peu dit, et ouais, vous n'avez pas le sentiment que d'une façon générale, votre mouvement, celui des cheminots, en fait, il est un peu, l'opinion publique est contre vous.
Oui, je pense qu'il y a pas toute l'opinion publique, mais une grande partie, on va dire. Moi, je le pense. Et donc, il faut continuer à expliquer. Alors, les gens disent, on comprend pas, on a mal compris, vous exprimez mal. Non, on explique depuis des années. Et on veut bien réexpliquer. Ce qu'ils veulent savoir, les gens, c'est savoir qu'est-ce qu'on gagne. Voilà. Et qu'est-ce qu'on veut gagner, quoi. Ça me gonfle au plus haut point. Mais je comprends que ce soit un intérêt dans la vie. Mais à un moment donné, si on dépasse un petit peu ça, peut-être on voit les choses un peu autrement. C'est-à-dire que, on est tellement conditionné par le travail dans ce pays que, voilà, on en est là aujourd'hui. Je pense que le libéralisme, et là, j'ai l'impression d'être un vieux militant, mais a mis dans la tête des gens qu'on est plus fort que son voisin et que le voisin est plus fort que l'autre. Donc tout seul, on va s'en sortir. On s'en sortira pas tout seul. Les gens s'en sortiront pas tout seul. Voilà.
Max ?
On parle des cheminots. Je vais faire un raccourci. C'est pas un raccourci, non. Je vais faire quelque chose de très concret et faire une espèce de métaphore par rapport au monde culturel. La lutte des cheminots, actuellement, concrètement, c'est par exemple un train qui va de Millau à Saint-Rome-de-Tarn, qui a 70 abonnés, c'est-à-dire qu'il y a 70 personnes qui le prennent deux fois par jour, qui va être supprimé. Tout ça pour mettre l'argent qui était mis dans cette ligne de train qui est de service public et qui est utile à la population, dans des lignes à TGV qui sont par rapport à l'Aveyron, soit à Montpellier, soit à Lyon, soit à Bordeaux. Enfin, voilà, c'est inaccessible aux gens pour la vie, je dirais, normale qu'on a ici.
Pas au sens présidentiel.
Ouais. Mais voilà, pour la culture, c'est exactement la même chose. On va mettre l'argent, il ira dans des choses qui seront ailleurs, dans des métropoles où il y a du potentiel économique, soi-disant. Et ben, il y aura le petit train de la culture de Millau à Saint-Rome où il y a 70 abonnés, et ben, il va disparaître.
Juste un petit truc qui n'a rien à voir, mais qui va dans ce sens aussi. Je me pose une question, savoir aujourd'hui, quand on est syndiqué CFDT, FO, CFTC, quelle impression ça fait d'être signataire d'un texte avec le patronat. On a essayé d'aller les rencontrer. On les a rencontrés, la CFDT à Rodez. Bon, on les a pas, bon, voilà, ils nous ont un peu repris, voilà. Bon, on les a rencontrés, hein. Mais je voudrais savoir ce que ça fait que d'être dans un syndicat qui signe des propositions patronales, et qui les adoube, quoi, hein, qui donc, effectivement, surtout quand on n'est pas représentatif, ça, j'en parle même pas. Mais quand on est militant de base CFDT, est-ce que ça fait pas un peu chier, quand même, d'être dans un syndicat qui collabore avec le MEDEF et collabore, j'emploie ce verbe à dessein, quoi.
Alors après qu'on veuille faire évoluer les choses, puisque le statut a été créé soit en 36 soit en 68, bon, le monde évolue, donc on peut imaginer aussi que les textes évoluent, et quand on est dans une négociation avec des partenaires, on est aussi prêt à avoir des propositions et à vouloir avancer sur certains points, considérant que la situation a un peu évolué, qu'il y a peut-être eu des choses qui n'auraient pas dû avoir lieu. Des personnes ont peut-être profité du statut d'intermittent. Moi, j'entends beaucoup les chaînes de télé qui en usent et qui en abusent. Bon, est-ce que vous, il y a des points sur lesquels vous êtes prêt à avancer, mais éventuellement, ou vous êtes pour le statu quo?
Mais non, en fait, suite à 2003, il y a eu un collectif d'intermittents en région parisienne qui s'est monté. Et suite à la pression et aux demandes de ce collectif, ont été créées des commissions parlementaires qui ont abouti oui, à un comité de suivi depuis 2003. Ça fait 11 ans, oui. 11 ans de travaux. Le comité de suivi, ce sont des sénateurs, des députés, les partenaires sociaux, c'est-à-dire patronat, salarié, et les collectifs d'intermittents et des précaires, qui sont autour de la table depuis 11 ans, qui ont des propositions qui sont très concrètes sur tout le système UNEDIC, mais aussi sur les annexes 8 et 10, qui ne sont pas entendues, personne n'est entendu.
Sachant que tout le monde était à peu près d'accord sur ces travaux. Hein.
D'accord.
Ah oui, non, mais c'est comme Rebsamen, avant de devenir
ministre du Travail. Ministre du Travail,
il était contre le protocole du 22 mars. Hein. Mm-hmm. C'est un dilon, en fait, sur cette espèce de leçon de démocratie qu'on a reçue samedi de la part de Christian Tessèdre, par exemple. C'est un dilon sur la sincérité de gens comme ça. Voilà, moi, c'est ça. C'est aussi pour ça que je suis dans le collectif des intermittents de l'Aveyron. C'est que là, j'ai l'impression un peu de me faire berner, quoi. C'est tout ça. Nous, on vient avec notre sincérité, notre honnêteté, notre innocence, notre naïveté, quoi, en face d'un appareil politique qui est absolument rompu à cet exercice. Et effectivement, on a envie de parler d'humain, eux nous parlent de chiffres et de rentabilité, de crise et tout ça. Donc je pense qu'il y a un peu des deux à faire. On n'est pas non plus des naïfs, quoi, complètement. Hein. On floue les gens, en fait, dans cette histoire-là. Et qu'on vienne pas me dire qu'on fasse le jeu du Front National. Ceux qui font le jeu du Front National, avant tout, c'est pas nous, quoi. Je peux expliquer pourquoi, mais voilà, ça, il faut arrêter de rentrer dans des raccourcis d'appareil politique quand on dit oui, vous allez faire le jeu du Front National. Ce n'est en aucun cas le cas, si je peux dire. Si c'est pas très français, c'est ce que je viens de dire.
Alors, globalement, sauf surprise, le gouvernement devrait signer cet agrément cette semaine. Après, concrètement, dans les faits, ça se traduirait par une application immédiate.
Au 1er juillet.
Donc, effet immédiat, conséquence immédiate. Et vous, le lendemain de cette signature, qu'est-ce que vous faites? Parce qu'une fois qu'une chose est signée.
Et après, effectivement, dans ce cadre-là, ben, demain, il y a une AG, on va discuter de tout ça. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense il va y avoir des actions qui vont continuer. Je vois à Avignon, je pense que le off va jouer, et certaines compagnies vont jouer, d'autres vont faire grève, peut-être de façon intermittente, hein. Donc voilà, on va inventer un nouveau genre de truc, hein. Mais bon, ça va plus servir à grand chose, parce qu'effectivement, après, il va falloir continuer à rester serré, je crois. Surtout au regard de, enfin, moi, c'est mon avis perso, là, j'engage pas le collectif, mais au regard de ce qui va être, des travaux qui vont être faits, parce que c'est le pire qui arrive. Là, on est sur quelque chose, on va jusqu'au bout parce que c'est pas signé, nanana. Mais ce qui arrive est le pire. Et là, la caisse autonome, c'est le pire. Donc ça, on peut craindre des choses à venir après qui vont être, je pense, terribles, quoi. Hein. Donc là, on est dans un champ. Moi, j'avoue que là, des fois, je suis un peu. je pensais pas, moi, sincèrement, perso, Wally, que ça allait, en tant que Wally, que ça allait être signé, ces trucs. Vu, la différence entre 2003 et 2014, c'est qu'en 2003, enfin, en 2014, du directeur de théâtre le plus hype parisien ou à l'intermittent du fin fond de l'Aveyron, tout le monde est d'accord pour dire que ce protocole est pas bon. C'est pas bon. Tout le monde. C'était pas le cas en 2003. Il y avait des Mouchkine qui étaient contre, Chiron n'avait pas, voilà, les annulations. C'est toujours très bizarre d'annuler un spectacle. Moi, je suis contre, personnellement, les annulations de spectacle. Mais aujourd'hui, j'en suis réduit à me dire que le seul moyen de se faire entendre, comme l'a dit Max tout à l'heure, c'est la grève. C'est à un moment donné de dire voilà, nous on n'est pas contents. Alors effectivement, on se pénalise, nanani, nanana. Mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on se fait entendre, quoi? Je veux dire, on va pas fabriquer des sonotones géants, quoi, pour les politiques, quoi. C'est pas possible, quoi. Donc, eh ben, quel moyen d'action on a? Ben aujourd'hui, une espèce de démocratie un peu mise à mal, je trouve, moi. C'est mon avis. On regarde comment sont prises les décisions, comment on les entend, comme on l'a écrit samedi. Voilà, le gouvernement socialiste est pour le dialogue social, mais surtout pour le monologue collectif. Et donc, à partir de là, comment on fait pour arriver à se positionner? Ben, nous, on essaye de se positionner dignement, je dirais. C'est, moi, il y a quelque chose de l'ordre de la dignité dans ce qu'on fait là. On peut pas être d'accord avec ça. Voilà, tout simplement.
Comment vous êtes perçu? On a parlé du grand public, mais bon, quand on organise des festivals, notamment, c'est de l'activité économique. Les commerçants, les bars travaillent, même les élus, ça participe à la dynamique d'une ville, ça peut faire venir des touristes, ça pourrait être des gens qui pourraient être de votre côté. Comment ça se passe là en Aveyron? Ben, vous êtes tout seul, les intermittents, ou à part Marie-Lise, vous avez d'autres soutiens?
Ben, les chiffres des différentes enquêtes montrent que ben, pour 1 euro investi dans la culture, c'est 10 euros induits dans l'économie locale. Ben, j'ai envie de dire, ben, en fait, ben, on n'entend pas beaucoup les 10 euros. Alors peut-être qu'ils vont dire, on verra comment ça se passe après, on demandera une réduction de la TVA.
Parce que les commerçants, non mais sans par exemple, même, ne serait-ce que par exemple, les brasseurs. Rien que, par exemple, vous n'avez pas des brasseurs qui vous soutiennent?
Ben non. Ben non.
Des fabricants de merguez.
Ben non. J'ai demandé à quelqu'un qui vendait des merguez, voilà, me dit, voilà, les petits tracts comme ça, savoir, oui, je vous soutiens, vous venez manger après, il me dit. Voilà, bon. Ça résume assez bien le truc. Donc, c'est exactement pareil. Voilà, donc, à un moment donné, voilà, quand on en est là, il y a quand même des choses assez terribles. Non, mais moi, je suis pour que ces gens-là se rallient. Au lieu que les pauvres bougres, on se foute sur la gueule entre nous, hein, ce qui s'est passé, cette année, un truc terrible, c'est que, en Bretagne, où deux salariés de la même entreprise se sont battus, quoi. Donc, au lieu qu'on en arrive à ça, et ce qui s'est un peu passé au Rio Loco, il y avait des commerçants qui ont dit, ouais, vous nous empêchez de travailler, mais il faut qu'ils comprennent aussi, il faut pas qu'ils voient plus loin que le bout de leur merguez ou que leur pompe à bière, quoi. Et, moi, j'ai pas d'a priori sur les commerçants, hein, je veux dire vraiment, mais ça serait bien qu'à un moment donné, on réfléchisse un peu à tout ça, à l'économie, une économie locale, comme vient de le dire Max, c'est quoi? Quand il y a 1 euro d'investi sur le champ culturel, il y en a 10 qui reviennent au champ local, marchand. Donc bon, c'est juste un peu de décence, ayons un peu de dignité, regarde tout ça, soutenons-les, on ne demande pas de leur prendre, de faire une merguez géante pour venir soutenir avec nous au bout d'une pancarte, quoi. Mais ayons, voilà, moi c'est aussi un appel que je lance aussi aux gens, en fait, de se mobiliser sur une question de bon sens et de se dire, ben, on n'est pas tout seul, en fait. Il y a une phrase de Coluche qui résume assez bien, je crois, moi, qui est une phrase préférée, qui dit, il suffirait qu'on n'achète plus pour que ça se vende plus. Hein, voilà. Et ça, c'est philosophiquement, c'est plus fort comme proverbe chinois, quoi. Donc je trouve qu'il faut juste penser à ça des fois de temps en temps. Et je comprends évidemment là les gens qui ont leurs soucis, hein. Bon, je crois qu'on en a tous, mais à un moment donné, on peut se dire, t'es, au lieu d'avoir 100% de soucis, on peut en avoir 80, et les 20 autres, on essaie de penser un peu à faire des choses ensemble. Ça serait peut-être un peu plus intelligent.
Et alors du côté des élus, je parle pas au niveau national parce que là ils sont dans d'autres sphères, mais au niveau local, l'élu local est bien content d'avoir son festival qui voilà, vitalise un petit peu à différents moments de l'année la commune, qui met ensemble les populations. J'en entends des discours, moi, dans ce cadre-là, de l'importance de la culture partout, sur tous les territoires. Est-ce que au niveau local, je parle de Rodez, mais pas seulement, hein, les collectivités, alors mairie, agglo, conseil général, conseil régional, tout ce que vous voulez, quand vous les appelez, on vous répond déjà?
C'est pas tout le temps le cas, mais ce qui la ressort de nos entrevues, c'est que en fait les élus, on nous dit tout le temps, ben en fait l'État va nous donner 13% de moins cette année et tant de pourcents de moins l'année prochaine. Et en fait les élus, j'ai l'impression qu'ils sont en train, surtout quand ils sont de formation comptabilité, je dirais. Ils sont en train de gérer des cases Excel et ils oublient qu'ils ont été élus. Enfin, c'est ce qui nous semble, hein, vu de notre point de vue. Ils ont été élus pour gérer des choses qui concernent l'humain. Et pas des lignes comptables dans un budget de mairie. Oui, les lignes comptables, elles y sont aussi, mais les chiffres seuls, non, c'est du virtuel, ça n'existe pas. C'est une réalité économique, je veux bien. Ce qu'il en découle, ben, c'est la réalité humaine. C'est la précarisation grandissante. On voit que Onet-le-Château, par exemple, a accédé au tableau des communes les plus pauvres de France. Ouais. Voilà. On en est là, voilà. J'invite les élus à réfléchir à l'attractivité du territoire. On en entend parler. Je pense que la culture fait partie de l'attractivité du territoire. Et si ça peut pas panser toutes les plaies, ça peut quand même aider à supporter bien des misères de ce monde.
Alors si je comprends bien, c'est qu'il y a aucun élu aveyronnais qui fait partie du, comme Marlise, sans être intermittente, qui fait partie du collectif des intermittents, qui vous soutient.
Je suis pas plus au courant, mais je crois pas, non, Matt.
On a des élus du parti de gauche qui nous soutiennent, qui nous consultent pour savoir ce qu'ils peuvent faire pour voilà. Comme on a des ce sont pas des élus mais des représentants de certains syndicats comme Sud Solidaire ou qui nous soutiennent, la Confédération paysanne.
D'accord.
Je vais me faire taper, il y a le NPA aussi, je vais me faire taper sur les doigts pour ce que j'oublie et je m'en excuse.
Ouais. Il y en a quand même, mais en fait, des élus, on fait au sens de la question que tu posais, qu'à demi sabot, regarde ce qui s'est passé samedi, nous, on a reçu une belle leçon de démocratie samedi soir devant
la mairie de Rodez.
Voilà, parce qu'on a été con, parce qu'on n'a pas envoyé à temps la motion, hein. Donc on est bête, hein, et on se l'est bien fait dire, donc effectivement, alors on va l'envoyer, mais bon, le conseil municipal, quand il va délibérer, la signature sera passée. Bon, on va l'envoyer quand même, ils sont quand même capables de pas la signer après que ce soit passé, mais donc si vous voulez, ça fait 4 mois qu'il y a urgence, quoi, là, ça gueule un peu de partout, et je pense qu'à la moindre des choses pour quelqu'un qui est sensible, qui a des valeurs de gauche, hein, voilà, donc l'ouverture, entraide, etc., aurait été de s'intéresser un peu à ça, et même de sans qu'on l'interprète viennent se positionner clairement, mais c'est pas le cas. Voilà, c'est pas le cas.
On va malheureusement devoir bientôt se quitter dans ce Mag en Rodez en CFM. Je vais terminer en vous demandant qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années. Est-ce qu'il y a quand même un petit coin de ciel bleu qui peut s'envisager quelque part, ou on est sur de la défense à 100%?
Non, mais je crois que, enfin, moi, pour moi, en tout cas, ça va au-delà de, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, ça va au-delà de toutes ces problématiques précises, des précaires, des intermittents, c'est quel choix de société on veut. Moi, j'en appelle surtout à l'intelligence des gens, et pas à l'instinct, quoi. Voilà.
Max?
Ben, moi, le coin de ciel bleu, je pense que ce serait la non-signature de cet accord, mais parce que cet accord, il concerne les 9 millions de Français, de personnes qui sont concernées de près ou de loin, mais très directement, par le chômage. Faut rappeler que le fonds de Unédic, le fonds de chômage, c'est un fonds salarial uniquement, parce que un patron, quand il calcule son coût salarial, eh bien, il intègre ses cotisations patronales à la CEDIC dans son coût salarial. Donc, c'est de l'argent qui est préempté sur le salaire des salariés. Donc, c'est notre argent, l'argent de notre productivité, qui est préempté, et donc c'est un hold-up sur notre productivité. Et ça va toucher absolument tout le monde. On est parti avec les accords de l'ANI, accord national interprofessionnel, qui est déjà signé dans des considérations. En fait, c'est le modèle allemand de la précarisation qui est en train de se mettre en place en France. Ça concerne absolument tout le monde. La cause des intermittents, ou le problème, on a entendu parler du problème des intermittents, il est mis en avant uniquement pour faire une mise direction. Une mise direction, c'est Quand vous avez un magicien, il vous demande de, il vous conduit à regarder sa main gauche pendant qu'il sort le la peine de derrière sa veste avec sa main droite. Mais les intermittents, c'est la mise direction, c'est-à-dire on focalise tout sur les intermittents pour ne pas parler de toutes les autres conséquences qui concernent absolument tout le monde si cet accord du 22 mars est signé.
Comment ceux qui nous... Oui, Marlise ?
Non, c'était juste pour les gens qui veulent s'y intéresser.
Eh bien, c'est ce que j'avais demandé. Comment on fait ?
C'est ça.
Alors, soit pour s'y intéresser, prendre de l'information, d'une part, exactement. Et puis pour peut-être vous soutenir ou participer au mouvement, comment on peut faire ?
Alors, pour s'y intéresser, déjà, il y a deux sites internet qui sont plutôt bien faits avec tous les textes, avec tous les flyers qu'on distribue, avec toutes les informations dessus. Donc, il y a celui du CI Aveyron. Donc le site c'est ciaveyron.wordpress.com.
D'accord.
Et le deuxième site qui est national avec vraiment toute l'information dessus, c'est cip-france.org.
Très bien. Et donc pour revenir à votre actualité collectif des intermittents de l'Aveyron, vous m'avez parlé d'une AG hein,
oui.
cette semaine.
Oui.
Et derrière, il y a des choses prévues dans quel ordre, dans tout va dépendre de l'AG.
Bah déjà, il y a aussi la grève signature. À la maison du peuple de Millau mercredi.
D'accord.
Il va y avoir des interventions au Nature Organisme à Millau.
Ah oui,
voilà, tout ça arrive. Puis nous, il y a Avignon qui se profile. Moi, je fais Avignon, donc on va voir comment on va se positionner. Enfin, voilà.
Et il y a l'Estivada aussi.
Et il y a l'Estivada qui arrive fin 3 juillet.
Tous les festivals aveyronnais qui sont concernés.
On vous sent, Max, un peu désabusé.
Désabusé, fatigué, parce que 4 mois de lutte, eh bien, c'est usant. C'est vrai que, comme le disait Wally, la leçon de démocratie de samedi... Ça nous a bien chargé.
Oui, je rappelle que vous aviez invité Christian Tessèdre à discuter, à vous soutenir, à se positionner.
Surtout, c'était voilà.
Et globalement, il a dit qu'il vous soutenait, mais
à l'oral, pas à l'écrit. À l'oral, mais pas à l'écrit.
Voilà.
Pas à l'écrit.
Je vous remercie beaucoup en tous les cas à tous les trois d'être venus dans notre studio, expliquer un petit peu les tenants, les aboutissants de ce conflit, de ce mouvement et de cette mobilisation des intermittents du spectacle en Aveyron et partout en France. Je vous souhaite bon courage pour la suite. Un bel été tout de même.
Oui.
Et à très bientôt en CFM. Pourquoi pas, vous revenez quand vous voulez. Hein, si,
merci à vous. Hein.
Avec grand plaisir. Et une bonne fin de journée à tous en CFM. Au revoir. Au revoir.